Section 20, le message triomphant. Le grand cri. La vérité triomphera bientôt, la fin est proche. Elle avance furtivement, insensiblement, silencieusement, comme le voleur dans la nuit. Veuille le Seigneur nous aider à ne pas dormir, comme tant d'autres, mais à être sobre et vigilant. La vérité triomphera bientôt glorieusement, et tous ceux qui se décident aujourd'hui à être des collaborateurs de Dieu triompheront avec elle. Le temps est court. La nuit vient où personne ne pourra travailler. Comme à la Pentecôte, l'heure est proche où il y aura autant de convertis en un jour qu'il y en eut le jour de la Pentecôte, après que les disciples eurent reçu le Saint-Esprit. Des milliers pénétreront dans la lumière, nombreux sont ceux qui sont restés sourds à l'appel de l'Évangile. Ils ont été jaugés et éprouvés. Mais d'énormes obstacles ont semblé surgir devant eux, paralysant leur marche en avant. Mais par la foi, la persévérance et le courage, beaucoup surmonteront ces obstacles et s'engageront dans la glorieuse lumière. Presque inconsciemment, on a placé des barrières sur le chemin raide et étroit. On y a mis des pierres sur lesquelles on bute, mais elles seront enlevées. Quant aux murs de protection dont les faux bergers ont entouré leurs troupeaux, ils ne serviront à rien, des milliers de personnes pénétreront dans la lumière et participeront à sa diffusion. Les intelligences célestes agiront de concert avec les agents humains. Ainsi encouragée, l'Église se lèvera, et brillera, jetant toutes ses forces sanctifiées dans la bataille. De cette façon, les desseins de Dieu se réaliseront, et les perles égarées seront retrouvées. Les prophètes ont entrevu de loin cette œuvre solennelle. Ils se sont pénétrés de l'inspiration de l'heure et ont dépeint les choses merveilleuses qui sont encore à venir. Beaucoup d'anciens membres réintégreront l'Église, quand l'orage de la persécution éclatera sur nous, les véritables brebis entendront la voix du véritable berger. Des efforts désintéressés seront faits pour sauver ceux qui sont perdus, et un grand nombre de ceux qui se sont égarés loin du troupeau retourneront, auprès du souverain berger. Le peuple serra les rangs et présentera à l'ennemi un front uni. L'amour du Christ, l'amour de nos frères attesteront aux yeux du monde que nous avons été avec Jésus et que nous avons assimilé ses enseignements. Alors, le message du troisième ange s'enflera jusqu'à devenir un grand cri, et toute la terre sera illuminée de la gloire du Seigneur. La valeur des imprimés, le Seigneur fera de grandes choses pour nous, si nous restons humbles et nous tenons à ses pieds. Plus d'un millier d'hommes se convertiront en un jour, dont la plupart attribueront leur première conviction à la lecture de nos imprimés, le ministère de la bienfaisance, 77, 1885. La puissance exprimée en 1844 se manifestera de nouveau, la puissance qui a si fortement remué les gens par l'intermédiaire du mouvement de 1844 se manifestera de nouveau. Le message du troisième ange sera proclamé, non à voix basse, mais avec une voix puissante. Le grand cri, à l'heure du grand cri, l'Église, soutenue par les interventions de son éminent Seigneur, répandra si abondamment la connaissance du salut que la lumière se propagera dans toutes les villes petites et grandes. La terre sera remplie de la connaissance du salut. Le renouvellement de l'Esprit de Dieu couronnera d'un si grand succès l'activité intense des instruments humains que la lumière de la vérité présente jaillira de toutes parts. Pourquoi le retour du Christ est différé? Différé par miséricorde, la longue et sombre nuit est éprouvante, mais le matin est différé par égard pour nous, car si le Maître venait maintenant, trop de gens seraient pris au dépourvu. Dieu ne veut pas que son peuple périsse, telle est la raison de ce long retard. Le Christ devrait être déjà revenu, si les adventistes s'étaient conformés au dessein de Dieu en proclamant au monde le message de miséricorde, le Christ serait déjà revenu, et les saints fouleraient la cité céleste. Je sais que si le peuple de Dieu s'était maintenu dans une communion vivante avec lui, s'il avait obéi à sa parole, il serait aujourd'hui dans la Canaan céleste. Pris de vitesse par Satan, si chaque soldat du Christ avait fait son devoir, si chaque sentinelle placée sur les murs de Sion avait sonné de la trompette au moment voulu, le monde aurait déjà entendu le message d'avertissement. Mais l'œuvre est en retard de plusieurs années. Tandis que les hommes dormaient, Satan continuait son œuvre et devançait les hommes. Dieu n'oublie pas ses promesses. Dans les messages qu'ils adressent aux hommes, les anges de Dieu parlent du temps comme s'il était très court. C'est ainsi qu'il m'a toujours été présenté. Il est vrai que ce temps s'est prolongé davantage que nous ne le pensions aux origines de ce mouvement. Notre Sauveur n'est pas revenu aussi tôt que nous l'espérions. Est-ce à dire qu'il a manqué à sa parole? Loin de là. Souvenons-nous que les promesses de Dieu, tout comme ses avertissements, sont conditionnelles. Dieu a chargé son peuple d'une mission qu'il doit accomplir sur la terre. Le message du troisième ange devait être délivré et l'esprit des croyants dirigé vers le sanctuaire céleste, où le Christ est entré pour l'absolution des péchés de son peuple. La réforme du sabbat devait être poursuivie. La brèche faite dans la loi de Dieu devait être réparée. Le message doit être proclamé d'une voix forte, afin que tous les habitants de la terre puissent entendre l'avertissement. Les membres du peuple de Dieu doivent purifier leurs âmes en obéissant à la vérité, et se préparer à se tenir irrépréhensibles devant le Christ lors de sa venue. Si, au lendemain de la grande déconvenue de 1844, les adventistes étaient restés fermes dans la foi et s'ils s'étaient saisis, la main dans la main, des occasions que leur offrait la Providence, en acceptant le message du troisième ange et en le proclamant au monde par la puissance du Saint-Esprit, ils auraient vu le salut de Dieu. Le Seigneur les aurait puissamment soutenus dans leurs efforts, l'œuvre aurait été achevée et le Christ serait revenu pour offrir à son peuple sa récompense. Mais au cours de la période de doute et d'incertitude qui suivit la déception, de 1844, de nombreux croyants adventistes abandonnèrent leur foi. Ainsi, l'œuvre fut retardée, et l'humanité fut laissée dans les ténèbres. Si tout le mouvement adventiste s'était uni autour des commandements de Dieu et de la foi de Jésus, notre histoire eût suivi un tout autre cours. Dieu ne voulait pas que la venue du Christ soit ainsi différée. De même, il n'entrait pas dans ses plans que le peuple d'Israël erre 40 années dans le désert. Le Seigneur avait promis de conduire les Hébreux directement au pays de Canaan, et d'en faire une nation sainte, en bonne santé et heureuse. Mais ceux à qui cette offre fut faite initialement n'y entrèrent pas à cause de leur incrédulité. Leurs cœurs furent tellement remplis de mécontentement, de révolte et de haine que Dieu n'a pu accomplir la promesse qu'il leur avait faite. Durant 40 ans, l'incrédulité, les murmures et la rébellion ont interdit à l'ancien Israël l'entrée dans le pays de Canaan. Les mêmes péchés ont retardé l'entrée de l'Israël moderne dans la Canaan céleste. Ni dans un cas ni dans l'autre, les promesses de Dieu n'étaient en cause. C'est l'incrédulité, l'amour du monde, le manque de consécration et les différends de ceux qui prétendent appartenir au peuple de Dieu qui nous ont retenus pendant si longtemps dans ce monde de péché et de tristesse. Il se peut que nous passions encore bien des années dans ce monde à cause de notre insoumission, comme ce fut le cas pour les enfants d'Israël. Mais, pour l'amour du Christ, son peuple ne devrait pas commettre péché sur péché en imputant à Dieu ce qui n'est que la conséquence de leurs aberrations. Nous pouvons hâter le jour du Seigneur, en annonçant l'Évangile au monde, il nous est donné de hâter le retour de notre Seigneur. C'est le privilège de chaque chrétien, non seulement d'attendre, mais de hâter la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Si tous ceux qui se réclament de son nom portaient du fruit à sa gloire, avec quelle rapidité la semence de l'Évangile serait répandue dans le monde entier. La moisson serait bientôt mûre, et le Christ reviendrait pour rassembler les précieuses gerbes. Achèvement de la proclamation du message, elle, la venue du Christ, ne sera pas différée au-delà du temps nécessaire pour que le message soit proclamé à toute nation, à toute langue et à tout peuple. Nous qui prétendons connaître les prophéties, oublions-nous que la patience de Dieu à l'égard des pécheurs fait partie de son vaste et merveilleux plan par lequel il cherche à sauver les âmes? La puissance de Dieu pour l'achèvement de l'œuvre. Pourquoi beaucoup ont échoué, beaucoup présentent les théories et les doctrines de notre foi. Mais leurs exposés sont comme du sel dépourvu de saveur. Car le Saint-Esprit n'agit pas au travers de leur ministère sans foi. Ils n'ont pas ouvert leur cœur pour recevoir la grâce du Christ. Ils ignorent ce qu'est l'œuvre du Saint-Esprit. Ils sont semblables à du pain sans levain. Il leur manque le principe vital nécessaire à leur ministère, et ils ne parviennent pas à gagner des âmes au Christ. Ils ne s'approprient pas la justice du Christ. Cette robe, ils ne la portent pas. Elle leur est totalement inconnue. Ils n'ont jamais bu à cette fontaine. Davantage de dynamisme, il nous faut faire preuve d'une plus grande ardeur dans la cause du Christ. Le message solennel de la vérité doit être délivré avec un dynamisme qui montrera aux incroyants que Dieu nous assiste dans nos efforts et que le Tout-Puissant est la source vivante de notre force. Quand nos cœurs s'uniront avec le Christ et que nos vies seront en harmonie avec son œuvre, l'Esprit qui fut répandu sur les disciples le jour de la Pentecôte sera aussi répandu sur nous. Animé du zèle des apôtres, un zèle pour la gloire de Dieu poussait les disciples à rendre témoignage à la vérité avec une grande puissance. Ce zèle ne devrait-il pas enflammer nos cœurs et nous animer du désir de parler de l'amour rédempteur, du Christ et du Christ crucifié? La puissance de Dieu ne devrait-elle pas se manifester davantage encore aujourd'hui qu'au temps des apôtres? The Signs of the Times, 17 février 1914. La source de leur puissance, après l'ascension du Christ, les disciples étaient assemblés dans un même lieu pour adresser à Dieu d'humbles requêtes. Après 10 jours durant lesquels ils sondèrent leur cœur et firent leur examen de conscience, la voie était libre pour que le Saint-Esprit entre dans le temple de leur âme, purifié et consacré. Tous les cœurs furent remplis du Saint-Esprit, comme si Dieu voulait offrir à son peuple les plus précieuses bénédictions célestes. L'épée de l'Esprit brillait de tous ses feux. Fraîchement et puissamment aiguisée, elle séparait âme et esprit, jointure et moelle. L'idolâtrie qui s'était mêlée au culte du peuple de Dieu fut réduite à néant. De nouveaux territoires furent ajoutés au royaume de Dieu. Des lieux autrefois désertiques et désolés firent retentir les louanges du Seigneur. L'amour des âmes, remarquons-le, c'est une fois que les disciples eurent réalisé entre eux une unité parfaite, lorsqu'ils eurent renoncé à briguer la première place, que le Saint-Esprit fut répandu sur eux. Ils n'étaient qu'un cœur et qu'une âme. Tous leurs différends avaient été aplanis. Et le témoignage rendu à leur sujet après l'effusion était le même, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. L'esprit de celui qui était mort pour que les pécheurs vivent animait toute la communauté des croyants. Les disciples ne demandaient pas une bénédiction pour eux-mêmes. Ils avaient à cœur le salut des âmes. L'évangile devait être diffusé jusqu'aux extrémités de la terre, et ils réclamaient dans ce but la puissance que le Christ avait promise. C'est alors que le Saint-Esprit fut répandu et que des milliers de personnes se convertirent en un seul jour. L'effusion du Saint-Esprit sur l'Église finale, quand notre consécration au service du Christ sera totale, Dieu sanctionnera ce fait en répandant son esprit avec abondance. Mais ce ne sera pas possible tant que la majeure partie de l'Église ne participera pas à l'œuvre de Dieu. La terre illuminée, j'ai vu des jets de lumière provenant de villes et de villages, de la montagne et de la plaine. La parole était suivie, et dans ces villes et ces villages se dressaient des monuments à la gloire de Dieu. La vérité était proclamée dans le monde entier. Des centaines et des milliers de personnes se rendaient dans les familles et leur expliquaient les Écritures. Les cœurs étaient touchés par la puissance du Saint-Esprit, et on voyait de véritables conversions. De tous côtés des portes s'ouvraient à la proclamation de la vérité. Le monde semblait illuminé de la lumière divine. Par d'humbles instruments, c'est ainsi que le message du troisième ange sera proclamé. Quand le temps sera venu où celui-ci devra retentir avec plus de puissance, le Seigneur agira par d'humbles instruments qui se seront consacrés à son service. C'est par l'onction du Saint-Esprit plutôt que par la culture obtenue dans les écoles qu'ils seront qualifiés en vue de leur mission. Des hommes de foi et de prière, poussés par une force irrésistible et animés d'un saint zèle, iront annoncer les paroles que Dieu leur confiera. Les péchés de Babylone seront dévoilés. Les terribles conséquences résultant des lois religieuses imposées par l'autorité civile, les ravages du spiritisme, les progrès insidieux, mais rapides, de la puissance papale, tout sera démasqué. Ces avertissements solennels remueront les masses. Des milliers et des milliers de personnes, qui n'auront jamais rien entendu de pareil, apprendront, à leur grande stupéfaction, que Babylone est l'Église déchue à cause de ses erreurs. Des multitudes se joindront aux armées du Seigneur, beaucoup courront çà et là, poussés par l'Esprit de Dieu à apporter la lumière à d'autres. Ils sont tellement désireux d'éclairer ceux qui gisent dans les ténèbres que la vérité, la parole de Dieu, est comme un feu qui consume leurs os. Nombreux sont ceux qui, même parmi ceux qui ne sont pas instruits, proclament aujourd'hui la parole du Seigneur. Les enfants eux-mêmes sont poussés par l'Esprit à aller annoncer le message du ciel. L'Esprit est répandu sur tous ceux qui se soumettent à son influence, et, renonçant à utiliser tous les moyens humains, les règles contraignantes et les méthodes coteleuses imaginées par l'homme, ces gens prêchent la vérité avec la puissance de l'Esprit. Des multitudes croiront, et se joindront aux armées du Seigneur. Des milliers de voix feront retentir le message céleste, les serviteurs de Dieu, le visage illuminé d'une sainte consécration, iront de lieu en lieu proclamer le message céleste. Des milliers de voix le feront retentir dans toutes les parties du monde. Les malades seront guéris, des miracles et des prodiges accompagneront les croyants. Satan, de son côté, opérera des miracles trompeurs jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Ainsi, les habitants de la terre seront mis en demeure de prendre position. Ce n'est pas tant par des arguments que par une profonde conviction inspirée par le Saint-Esprit que sera proclamé l'avertissement. Les preuves auront été produites. La semence jetée auparavant portera alors ses fruits. Les publications répandues par de zélés croyants auront exercé leur influence. Plusieurs de ceux qui n'avaient pu comprendre la vérité la saisiront pleinement et s'y conformeront. Des rayons de lumière pénétreront alors en tout lieu, la vérité paraîtra dans toute sa clarté, et les âmes honnêtes briseront les chaînes qui les asservissaient. Les relations de famille et d'église ne pourront plus les retenir. La vérité leur sera plus précieuse que toute autre chose. En dépit des puissances liguées contre la vérité, nombreux seront ceux qui se décideront à suivre le Seigneur. L'effusion du Saint-Esprit sur l'Église est envisagée comme un événement futur. Mais c'est le privilège de l'Église de la recevoir dès maintenant. Recherchez-la, priez pour la recevoir et croyez en elle. Nous devons l'obtenir et le ciel est prêt à nous l'accorder. La pluie de l'arrière-saison, que les chrétiens demande avec foi la bénédiction promise, et ils l'obtiendront. L'effusion de l'Esprit au temps des apôtres était la pluie de la première saison, et le résultat en fut glorieux. Mais la pluie de l'arrière-saison sera plus abondante encore. Aujourd'hui est le temps favorable. L'œuvre pour notre époque, le message du troisième ange s'amplifie jusqu'à devenir un grand cri, et vous ne devez pas vous croire autorisé à négliger votre devoir présent, en vous imaginant que plus tard vous recevrez de grandes bénédictions, et que sans aucun effort de votre part un merveilleux réveil se produira. Aujourd'hui même, vous devez vous purifier pour recevoir la rosée céleste, afin d'être prêt pour les ondées de l'arrière-saison. Car celles-ci tomberont et la bénédiction de Dieu remplira toute âme purifiée de toute souillure. C'est aujourd'hui votre devoir de soumettre vos âmes au Christ, afin d'être dans les dispositions requises pour le temps de rafraîchissement promis par le Seigneur et pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Au lieu de vivre dans l'attente d'une exaltation spéciale, nous ferions mieux de saisir les occasions qui nous sont offertes pour faire notre devoir afin que des âmes soient sauvées. Au lieu de nous fatiguer l'esprit à faire des spéculations concernant les temps et les moments que le Seigneur a fixés de sa propre autorité, et qu'il n'a pas révélés aux hommes, nous ferions mieux de nous abandonner à la direction du Saint-Esprit, afin d'accomplir nos devoirs présents, de distribuer le pain de vie, affranchi des opinions humaines, aux âmes assoiffées de vérité. Des occasions sans précédent, à notre époque où l'on voyage beaucoup, les occasions d'entrer en contact avec des hommes et des femmes de toutes les classes de la société et de plusieurs nationalités sont bien plus nombreuses qu'au temps d'Israël. Les moyens de transport sont 1000 fois plus nombreux. À cet égard, Dieu a merveilleusement préparé la voie. L'imprimerie, avec ses possibilités multiples, est à notre disposition. Bible et publications diverses, éditées en une foule de langues, présentant la vérité pour notre temps, sont toutes prêtes à être utilisées et peuvent être expédiées dans le monde entier. Nous devons proclamer le dernier avertissement de Dieu aux hommes. Avec quelle ardeur ne devrions-nous pas étudier la Bible, et avec quelles ailes ne devrions-nous pas répandre la lumière? Dieu fournit ces occasions, nous sommes à la veille d'une heure décisive. Par la puissance du Saint-Esprit, nous devons aujourd'hui propager les grandes vérités pour le temps de la fin. Dans peu de temps, tous auront entendu l'avertissement et auront pris leur décision. Alors viendra la fin. Dieu est le grand maître d'œuvre et sa providence prépare le chemin pour que son œuvre soit accomplie. Il fournit des occasions, dévoile des perspectives et nous donne des ouvertures qui nous permettent d'accomplir notre tâche. Si son peuple était attentif aux instructions de la Providence, et s'il était disposé à coopérer avec lui, il verrait la réalisation d'une grande œuvre. À la veille d'événements décisifs, aujourd'hui, les humains et les nations sont jaugés par un instrument de mesure tenu par la main de celui qui ne commet jamais d'erreur. Les signes des temps proclament que nous sommes arrivés au seuil d'événements grands et solennels. Tout ici-bas est en effervescence. Les prophéties du Sauveur relatives à ce qui va se passer avant son retour s'accomplissent sous nos yeux, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, a dit Jésus. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura, en divers lieux, des famines et des tremblements de terre. Notre époque offre un intérêt capital pour nous tous. Gouvernements, hommes d'État, tous ceux qui occupent des postes de confiance, tous ceux qui réfléchissent ont l'attention attirée sur les événements qui se déroulent autour de nous. Ils suivent avec intérêt les rapports qui existent entre les nations. Ils notent l'attention qui s'exerce sur les événements terrestres, et ils se rendent compte que quelque chose d'important et de décisif va se produire, le monde est à la veille d'une terrible épreuve. Profitez du sursis pour accomplir notre mission, actuellement, les anges retiennent les vents des conflits, jusqu'à ce que le monde ait été averti du destin qui l'attend. Mais un orage se prépare, prêt à éclater sur la terre, et quand Dieu ordonnera à ses anges de relâcher les vents, on assistera à des scènes de combat si terribles qu'aucune plume ne saurait les décrire. Dieu, dans sa grâce, nous a accordé un sursis. Dès lors, toutes les énergies dont le ciel nous a dotées doivent être employées pour accomplir la tâche que le Seigneur nous a assignée en faveur de ceux qui périssent dans l'ignorance. Le peuple de Dieu devrait lui adresser d'ardentes requêtes pour obtenir aujourd'hui son aide, et déployer toutes ses forces pour propager la vérité pendant le délai qu'il nous a donné. Nous entrons journellement en contact avec des hommes et des femmes qui sont passibles du jugement de Dieu. Chaque jour qui passe peut être un moment décisif pour telle ou telle personne. Chaque jour, quelqu'un doit prendre la décision dont dépendra sa destinée future. Signification du conflit, nous ne comprenons pas comme nous le devrions le grand conflit qui oppose les agents invisibles, le combat qui se déroule entre les anges fidèles et les anges félons. Les bons et les mauvais anges s'efforcent d'agir sur chaque homme. Il ne s'agit pas d'une bataille imaginaire. Le conflit dans lequel nous sommes engagés n'est pas illusoire. Nous avons à affronter des ennemis très puissants, et c'est à nous qu'il appartient de décider qui vaincra. Nous devons puiser nos forces là même où les premiers disciples ont puisé la leur, The Signs of the Times, 17 février 1914. Un réveil du paganisme, la manifestation de l'homme de péché, à mesure que nous approchons de la fin, nous assisterons à une manifestation toujours plus impressionnante de la puissance du paganisme. Les divinités païennes déploieront leur pouvoir éclatant, et se présenteront devant les cités du monde. Cela a déjà commencé de s'accomplir. Par différentes illustrations, le Seigneur Jésus a révélé à Jean, l'apôtre, la méchanceté et l'influence séductrice de ceux qui se sont distingués en persécutant le peuple de Dieu. Tous ont besoin de lucidité pour pénétrer comme il convient le mystère de l'iniquité qui tient une place si importante dans le déroulement de l'histoire de l'humanité. À l'époque même où nous vivons, le Seigneur a appelé son peuple et il a confié un message. Il lui a prescrit de dévoiler la perversité de l'homme de péché qui a donné à la loi du dimanche un pouvoir particulier, qui a espéré changer les temps et la loi, et qui a opprimé le peuple de Dieu qui fait preuve de loyauté en honorant le Seigneur par l'observation du seul véritable sabbat, celui de la création, qui a été sanctifié par l'Éternel. Messager intrépide, aujourd'hui, à mesure que nous approchons de la fin des temps, le diable déploie des efforts désespérés pour faire tomber les hommes dans ses pièges. Il s'applique à absorber les esprits et à les détourner des vérités essentielles du salut. La méchanceté atteint aujourd'hui son paroxysme. Pourtant, nombreux sont les ministres de l'Évangile qui s'écrient « paix et sûreté ». Mais il faut que les fidèles messagers du Seigneur avancent avec assurance dans l'accomplissement de leurs tâches. Revêtus de toutes les armes de Dieu, ils doivent aller de l'avant, avec courage et dynamisme, sans jamais abandonner le combat, jusqu'à ce que tous aient pu entendre le message évangélique pour notre époque. Le triomphe suprême. Comment l'Évangile ébranla le monde? Grâce à la coopération de l'Esprit divin, ils, les apôtres, accomplirent une œuvre qui ébranla le monde entier. Dans l'intervalle d'une seule génération, l'Évangile fut annoncé à toutes les nations. Quel résultat merveilleux furent obtenus par les apôtres! Ce n'est pas par leur propre force que les disciples accomplirent leur mission, mais par la force du Dieu vivant. Leur tâche n'était pas facile. Les premiers efforts déployés par l'Église furent marqués par de dures épreuves. Il leur fallut constamment lutter contre les privations, la calomnie, les persécutions. Mais ils ne faisaient pas cas de leur vie. Ils se réjouissaient d'être appelés à souffrir pour le Christ. Leur travail ne connut ni l'irrésolution ni l'indolence. Leur seul désir était de se donner et de servir. Le sens aigu de leur responsabilité enrichissait et purifiait leur vie, et la grâce du ciel se révélait dans leur conquête pour le Christ. La puissance de Dieu agissait par eux pour faire triompher l'Évangile. Un grand nombre d'âmes d'élite, parmi les habitants de la terre, répandus dans toutes les nations, se trouvent des hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Semblables aux étoiles qui n'apparaissent qu'à la nuit, ils brilleront lorsque les ténèbres couvriront la terre, et l'obscurité les peuples. Dans l'Afrique païenne, dans les pays catholiques d'Europe et d'Amérique du Sud, en Chine, aux Indes, dans les îles lointaines et dans les lieux les plus reculés du globe, le Seigneur possède un firmament d'âmes d'élite qui apparaîtront dans tout leur éclat au sein des ténèbres, révélant nettement au monde apostat le pouvoir transformateur de sa loi. Dès aujourd'hui, nous les voyons apparaître dans toute nation, tout peuple, toute tribu et toute langue. À l'heure de la grande apostasie, quand Satan tentera un suprême effort pour que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent, sous peine de mort, le sceau de l'obéissance à un faux jour de repos, ses fidèles, sans tache, ni rides, ni rien de semblable, brilleront comme des flambeaux dans le monde. Plus la nuit sera sombre, plus vif sera leur éclat. L'Église triomphante, l'œuvre doit bientôt être achevée. Les membres de l'Église militante qui ont fait preuve de fidélité deviendront l'Église triomphante. Notre général, qui n'a jamais commis d'erreur, nous dit « Avancez, entrez dans de nouveaux territoires, plantez le drapeau dans tous les pays. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. » Le temps est venu, où les messagers auront fait le tour du monde. La vérité contenue dans les messages du premier, du deuxième et du troisième ange doit être communiquée à toute nation, tribu, langue et peuple. Il faut qu'elle brille à travers les ténèbres de chaque continent, et des îles de la mer. Cette œuvre ne saurait souffrir aucun retard. Notre mot d'ordre doit être, en avant, toujours en avant. Les anges du ciel nous précèdent pour nous frayer la route. Notre mission en faveur des pays lointains ne saurait être abandonnée tant que la terre entière n'est pas inondée de la gloire du Seigneur.